Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. La dernière fois, nous avons fait l'Ecclésiaste chapitre 7. Aujourd'hui, nous allons faire Ecclésiaste chapitre 8 et peut-être 9 en même temps. Ecclésiaste 8. Et 9. Donc nous commençons par le chapitre 8, Ecclésiaste 8.
Ecclésiaste 8. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, « Que fais-tu ?» Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera?
Voilà, donc nous commençons par les trois premiers versets qui répètent encore la puissance de la sagesse. La sagesse, ça fait briller le visage. Donc, puisque la sagesse permet de résoudre des problèmes, de calmer les tensions et de rendre l'atmosphère agréable. Donc, quelqu'un qui a la sagesse, ça sera quelqu'un comme un soleil, comme une lumière pour les gens. Lorsqu'il arrive quelque part, les gens vont être heureux, ils vont voir en quelque sorte la solution, quoi. C'est important. Et il dit même que la sagesse, au dernier point, la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Donc même quand nous sommes sévères dans la sagesse, nous ne paraissons pas très sévères. Alors c'est un appel à utiliser l'autorité avec sagesse. Donc quand on utilise l'autorité, même si on est dur, mais quand on l'utilise avec sagesse, c'est-à-dire qu'en tenant compte de tous les paramètres, en disant le bon mot au bon moment, ça aide à faire passer parfois des choses difficiles. C'est important de savoir dire les bons mots au bon moment. C'est ça la sagesse aussi. Et la deuxième partie, c'est la soumission au roi. Il est dit, je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ça rejoint ce que les Écritures nous disent dans Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car c'est Dieu qui établit les autorités. Donc c'est pratiquement le même verset, parce que là c'est dit, obéis au roi à cause de Dieu. Donc considère que si le roi est roi, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc obéis dans l'esprit que tu obéis à Dieu. Et c'est pas dans le sens d'esclavage, mais vraiment puisque tu veux respecter l'ordre que Dieu a établi. Peut-être que c'est bien qu'on lise Romains 13, ça va nous aider à mieux comprendre cette partie où on en appelle à l'obéissance au roi, à l'obéissance au responsable. Donc, il nous est demandé de le faire en pensant à Dieu. Voilà, ce n'est pas un point de faiblesse que d'obéir aux autorités supérieures. Comme nous avions l'habitude de le dire, même aux autorités que nous semblons nous dépasser en intelligence, il faut se dire que c'est Dieu qui les a posés là. Eh bien, c'est en obéissance à Dieu qu'on obéit à ces autorités-là. Voilà. Quand on met nos raisonnements devant, on ne va pas obéir à Dieu de cette manière-là. Donc, nous lisons Romains 13, à partir du verset 1.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Voilà, donc ce passage, il est vraiment clair, hein, le passage de Romains 13. Il nous explique que c'est le système de Dieu. Qui est des autorités, c'est le système de Dieu. Donc, résister à ça, c'est résister à Dieu. Ce n'est pas un plébiscite en faveur des autorités pour dire que les autorités sont de bonnes personnes. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire tout simplement qu'il y ait une autorité, ça vient de lui. Donc, prendre pour prétexte que les autorités sont imparfaites pour ne pas obéir, c'est résister à l'ordre établi par Dieu lui-même. C'est ça la réalité. Et nous sommes appelés à faire toujours notre part. Maintenant, si les autorités ne font pas leur part, nous avons lu dans un autre texte, toujours dans Ecclésiaste, qu'il y a une autorité qui les dépasse aussi. Donc même les autorités ont aussi des autorités qui les dépassent, l'autorité suprême étant Dieu lui-même. Donc si une autorité se plaît à désobéir à Dieu en faisant souffrir les gens qui sont sous sa juridiction, mais Dieu est encore une plus grande autorité qui va appliquer la vérité, qui va appliquer la loi sur cette autorité-là. Donc ne craignons pas ces gens-là, mais obéissons. Il est écrit dans Romains 13 par motif de conscience. Ça rejoint ce qui est écrit dans le texte qu'on est en train de lire. En pensant à Dieu, tu te dis, je le fais parce que ça fait partie de l'ordre établi. Si aujourd'hui, moi, je décidais de ne plus obéir parce que le président, c'est mon mari, le président, c'est mon cousin, je l'ai connu quand il était bébé, donc c'est pas lui qui va me donner des ordres. J'ai connu un tel quand j'étais son professeur à l'école. Aujourd'hui, c'est lui mon ministre de tutelle. Ce n'est pas lui qui va me donner des ordres. Quand on a des raisonnements comme ça, ou bien je l'ai vu ivre dans un bar, donc ça ne va pas aller avec Dieu, ce genre de raisonnement. Dieu te répétera, tu obéis. Dans 1 Pierre 18, 2 18, ça va même loin. C'est dit qu'il faut obéir même aux maîtres qui sont méchants. Ça va même plus loin. C'est dans le sens de dire, c'est le système de Dieu et Dieu est garant de son système. S'il y a un problème, il va intervenir. Mais nous, on ne peut pas remettre en cause, en question, le système puisqu'il y a des éléments dans le système qui ne sont pas bons. Ça, c'est le problème de Dieu. Nous obéissons à la façon dont Dieu a construit son univers. Il y a des autorités, nous devons obéir. Bien sûr, nous avons le cas où, dans Actes 4, 19 et dans Actes 4, 5, 29, c'est dit entre Dieu et les hommes, nous obéissons à Dieu. Donc, quand il y a un conflit entre l'ordre donné par Dieu et l'ordre donné par une autorité, bien sûr, nous obéissons à Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire, je ne vais pas payer mes impôts, puisque les députés s'enrichissent, ils achètent des vestes. Ah non, l'impôt est fait pour l'ordre dans le pays, pour le bien-être du pays. Maintenant, si on a de mauvaises autorités qui l'utilisent mal, c'est leur problème avec Dieu, avec la justice. Tout le temps, de toute façon, la justice va se manifester. C'est ce que nous lisons à la fin. C'est écrit, car il y a pour toute chose, au verset 6, un temps et un jugement. quand le malheur accable l'homme. Il y a un temps de jugement. Donc, nous pouvons dire, nous ne pouvons pas dire, je ne paye pas mes impôts, puisqu'on a un président voleur. Ah non, les impôts n'ont pas été faits pour le président voleur. Ils ont été faits dans un cadre d'un système rendant le pays agréable et habitable. Donc, nous devons faire toujours notre part malgré tout cela. Et Dieu a réservé un temps où il va juger ses autorités mauvaises. Oui.
Question Internet. Peux-tu nous définir qui est cette autorité ? S'agit-il uniquement du gouvernement du pays ou de toute personne ayant hiérarchiquement un pouvoir de décision supérieur au nôtre ?
C'est le deuxième cas. Donc, toute personne qui a un pouvoir. Donc, lorsqu'on est dans une équipe de football et que le coach veut qu'on fasse tel système de jeu, on applique ce système de jeu-là. Donc, on ne va pas commencer à dire, mais non, mais moi, j'ai été entraîné autrefois par un coach célèbre, il avait... Non, c'est le coach qui est le responsable, parce que si ça tourne mal, c'est lui qui va sauter. Voilà. Donc, c'est le système de qui dirige le monde. Les parents sont des autorités. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Donc, résister à tout ça, c'est à empêcher la construction dans le monde. Surtout, bien-aimés, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Nous avons remarqué que beaucoup, quand ils devaient obéir, ils n'ont pas obéi. Mais quand eux, ils ont pris le pouvoir, ah, bien-aimés, nous sommes surpris de voir la dictature. Donc, tu te dis, mais tiens, je croyais que la personne était démocrate. Parce que quand elle est sous une autorité, elle semble, voilà, démocrate, vouloir que le pouvoir soit au peuple, le pouvoir, il faut savoir quand même gérer les gens. Il y a toutes sortes de bonnes intentions, de corrections sur la manière dont l'autorité fonctionne. Mais dès que beaucoup de ces gens-là prennent le pouvoir, vous n'allez pas les reconnaître. Eux, ils vont supporter aucune correction. Ils supportent rien du tout. Mais quand ils étaient de l'autre côté, mais c'était des agneaux qui voulaient dire aux autorités, mais vous exercez l'autorité avec trop de fermeté, essayez de modérer. Mais dès que eux, ils prennent cette place-là, ils sont pires que les gens qu'eux, ils dénonçaient. Donc, beaucoup sont dans une contestation, c'est juste parce qu'ils sont de l'autre côté. Voilà. C'est pas parce qu'ils ont vraiment bon cœur, c'est juste un esprit de rébellion. Parce que quand eux, ils prennent le pouvoir, ils deviennent pires que les gens qu'eux, ils critiquaient. Ils supportent même aucune contradiction. Voilà. Oui.
Pasteur, je voulais juste avoir un éclaircissement. Est-ce que la sagesse et la maturité se complètent ou parce que on peut avoir une personne qui est grand, on va dire en âge, mais qui est mature, mais qui manque de sagesse.
Non, nous on parle pas de l'âge. Hein. La maturité, c'est la maturité, ça n'a rien à voir. Enfin, l'âge peut y contribuer, mais quand on dit que quelqu'un est mature, on parle pas de son âge. On parle vraiment de ce qu'il produit. Donc, il est sage en même temps.
Je dis ça pourquoi ? Parce que moi, j'ai un membre de ma famille, il est mature en âge.
Non, il est âgé, c'est tout ce qu'il faut dire. On ne peut pas dire qu'il est mature. Il est âgé.
Voilà. Il est âgé, mais en termes de sagesse, ce n'est pas une personne qui assemble. Alors comment, en tant qu'enfant de Dieu, on agit face à ces décisions, par exemple, au niveau, puisqu'il se dit, par exemple, chef de famille, il va prendre une direction qui est quand même parfois contraire à nos convictions, nous, en tant que chrétiens. Donc, on ne va pas être sous son autorité si, par exemple, il te conduit dans des voies qui ne glorifient pas Dieu.
Lui, on l'a dit, acte 5, 29, acte 4, 19. Entre l'ordre des humains et l'ordre de Dieu, nous obéissons à Dieu. Donc, quand il y a conflit entre les instructions d'une autorité et les instructions divines, nous suivons l'instruction divine, voilà. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas quelque chose qui contredit Dieu. Par exemple, payer les impôts, ça ne contredit pas Dieu. Il y a des gens qui vont décider d'eux-mêmes. Moi, je ne paye pas les impôts parce que nous avons un président voleur. Non, on n'a pas le droit de prendre des décisions comme ça. Ou bien, je n'obéis plus à mon père parce que je l'ai vu ivre. Ah, mais non, On ne sait pas, parce que tu as vu quelqu'un ivre un jour, qu'il n'a plus son autorité. Voilà. Donc c'est ça que nous voulons éviter. C'est la toute construction demande à ce qu'il y ait une obéissance aux autorités. S'il n'y a pas d'obéissance aux autorités, il n'y aura pas de construction. Il n'y aura pas de construction. Parce qu'il faut se dire que quand toi aussi tu vas donner les ordres, les gens aussi ne vont pas obéir. Parce que tu t'es attiré l'esprit d'insurrection, l'esprit de rébellion en résistant à d'autres. Mais toi aussi tu es habité par cet esprit. Le jour où toi tu reprends la responsabilité, les gens vont faire la même chose à toi. Mais quand toi tu connais ces principes-là, tu les appliques, tu serais étonné de voir que le jour où toi tu auras des responsabilités, bien sûr qu'il y aura toujours quelques personnes difficiles, mais en général ça se passera bien. Voilà. Nous continuons, verset 8.
L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme, pour le rendre malheureux.
Voilà, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ça c'est un des versets les plus importants de la Bible. Nous ne maîtrisons pas notre souffle. C'est pourquoi j'ai dit que c'est l'un des plus importants, parce que juste ça suffit à nous décider, à nous confier à Dieu, puisque nous ne savons même pas si dans 2 heures nous allons vivre. Nous ne savons pas. Beaucoup sont morts en s'endormant pendant le sommeil. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver. Donc l'homme n'est pas maître de son souffle. Donc concernant la vie et la mort, il ne peut rien faire. Juste quand nous dormons, c'est fini pour nous en quelque sorte, parce que nous ne savons pas pendant 8 heures, pendant 7 heures, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et tu te réveilles, mais 7 heures sont passées et tu as été comme absent. Donc c'est très important ce passage, mais bon. Ça montre à quel niveau l'homme est orgueilleux, puisque malgré cette réalité, les gens continuent à diriger leur vie eux-mêmes. Normalement, quand on lit ça, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, il n'y a point de délivrance dans ce combat. Donc, il n'y a pas de solution par rapport à ça. Personne ne peut maîtriser. Ça devait suffire à nous pousser à être humbles et à s'abandonner entre les mains de Dieu. Voilà. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et les méchants, dans leur haine, dans leur méchanceté, avec tout ce qu'ils peuvent avoir comme char de combat, Kalachnikov, tout ça, ça ne les met pas à l'abri de la mort. Ça ne les met pas. Je me souviens d'une époque où il y a eu un président que tout le monde redoutait. Quand il n'était pas encore président, il était juste chef d'état-major ou général. Dans l'armée, les gens déjà le craignaient au Nigeria. Et quand il a pris le pouvoir, même les pays environnants tremblaient. Parce que les gens le connaissaient avant même qu'il soit président, combien il était dur, terrible. Et dès qu'il a pris le pouvoir, même les pays voisins, moi je me souviens à l'époque, j'étais au Maroc, mais c'est comme s'il y avait une onde de choc jusque là-bas pour dire, mais Sani Abacha a pris le pouvoir, mais c'était les gens s'attendaient au pire, à la pire de dictature. Mais cet homme, je crois, il n'a même pas fait 3 ans. Il est mort d'une crise cardiaque. Étonnant. Bon, les gens ont dit que beaucoup de chrétiens ont prié par rapport à ça, mais c'est pour nous dire que si quelqu'un comme Sani Abacha n'a pas pu garder sa vie, l'homme n'en a pas de maîtrise sur le souffle. Il n'a pas. Normalement, rien que ça devait nous pousser à dire pardon à quelqu'un avec qui on a eu des problèmes, à arranger nos relations. Parce que tu ne sais pas que si tu meurs dans une heure, il vaut mieux arranger avec tout le monde. N'avoir rien dans le cœur. C'est vraiment ça, quoi. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux, malheureusement. Donc nous lisons la suite. Oui ?
Il y a une question internet. Comment se comporter face à une autorité déviante ? Par exemple, Il est courant en Afrique centrale d'être confronté à des autorités policières qui demandent des enveloppes à tout va.
Voilà, donc là, c'est la personne... Voilà, c'est très bien cette question, parce que dans Romains 13, c'est écrit que les autorités sont là pour mettre l'ordre afin de rendre en quelque sorte la vie agréable, la vie paisible dans le pays. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous est demandé de nous soumettre à eux. C'est pourquoi nous avons cité l'exemple des impôts. C'est pour le bien-être du pays, le feu rouge. C'est pour le bien-être du pays. Le feu rouge peut paraître un frein quand tu es pressé. C'est pas une raison pour dire « Ah, mais non, maman, je suis pressé, je n'obéis pas ». Non, si tu commences à faire ça, chacun va être pressé en son moment et ça sera le désordre. Voilà. Mais quand les autorités nous amènent dans des voies qui ne sont pas légales, nous devons refuser. Nous devons refuser.
Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui.
Voilà, il y a des problèmes qui sont soulevés là. C'est que des méchants ont semblé avoir un bon moment le jour de leur enterrement. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Il y a des méchants qui bénéficient des beaux enterrements. Voilà. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville, c'est encore là une vanité. Loin du lieu saint, c'est-à-dire par rapport au temple, quoi. C'est des gens, par contre, justes, qui se retrouvent mourir dans le désert, assassinés, poursuivis par des mauvais, ainsi de suite. Il en parle comme d'une contradiction. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Nous pouvons dire que, en réalité, puisque nous allons y arriver au verset 13, en réalité, que tu meurs avec un bel enterrement ou que tu meurs dans le désert, mais c'est pareil, la mort, c'est la même chose. Pendant l'enterrement, tu es déjà fini. Ça n'a aucune valeur. Mais il parle d'une apparence. Voilà, il est en train de parler de la contradiction d'apparence pour dire, pour finir toujours par la même chose, sur terre, tout est vanité. Parce que si en tant que juste, tu t'attends à un bel enterrement, tu peux te retrouver avec un enterrement de fosse commune, où on te jette dans une fosse. Alors que le méchant, lui, il va avoir un enterrement national. Alors, c'est pas ça qui compte. Il ne veut pas dire que c'est bien en réalité ce qui arrive au méchant, mais en apparence, c'est bien, c'est beau, mais en réalité, c'est pas beau puisqu'il est mort. Voilà, le bel enterrement n'est rien du tout. Et au verset 11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ce passage, nous le connaissons, hein, dans le psaume 73. C'est-à-dire qu'à force de voir les méchants réussir, certains deviennent aussi méchants. Ils pensent que c'est la bonne voie, ils pensent que la justice n'existe pas. C'est une erreur, parce que comme nous l'avons lu au verset 8, il y a un temps, au verset 6, car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, il y a un temps pour le jugement. Mais en apparence, nous pouvons faire 30 ans, 20 ans et avoir l'impression que quelqu'un il s'en sort, comme certains dictateurs. Mais à la 33e année, 32e année, nous sommes surpris par tout un enchaînement de problèmes qui lui arrivent jusqu'à la mort. Il y a un temps pour tout. Ne nous laissons pas séduire par le fait que certains méchants semblent s'en sortir. En réalité, ils ne vont pas s'en sortir. Personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Personne. Et au verset 12, « Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. » Donc, il dit finalement, dans tous les cas, c'est ceux qui craignent Dieu qui auront vraiment le bonheur. Voilà. Parce que le bonheur, c'est une question aussi de temps. Et dans l'éternité, les justes seront bien. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Voilà. Ça finira toujours contre les méchants. Oui.
Il y a encore quelques questions par rapport à l'obéissance des autorités. Donc, comment un chrétien doit-il réagir face à des injustices du gouvernement? Est-ce qu'un chrétien peut-il participer aux manifestants, aux manifestations?
Selon qu'elle soit autorisée, oui, c'est comment il est conduit. Donc, si maintenant, il ne manifeste pas en tant que chrétien, il manifeste en tant qu'humain. Par exemple, il fait partie d'une corporation qui, des avocats par exemple, qui manifestent à cause des injustices pénitentiaires. Tout. Voilà, donc là, il manifeste pas en tant que chrétien, il manifeste en tant qu'avocat. Maintenant, si en tant que chrétien, lui, il doit prier que Dieu agisse. Donc c'est ça qu'il faut. Faut pas faire l'amalgame. Nous, les chrétiens, on sort en tant que chrétiens pour dénoncer l'injustice. Non, nous nous prions, nous prêchons. Voilà, nous prêchons. Mais nous n'entrons pas dans des combats sociaux en tant que groupe chrétien. Mais individuellement, eh bien, chacun fera tel qu'il sera conduit. Nous ne pouvons pas donner les règles pour chaque individu. Mais en tant que groupe, nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas faire des manifestations. Nous devons prier et prêcher la parole.
Dans le domaine de l'armée, comment réagir quand ceux qui sont inférieurs à nous ne nous respectent pas en s'appuyant sur le fait qu'on n'a pas obéi à l'ordre d'une autorité contraire à la Bible? Dans le domaine de l'armée, comment réagir quand ceux qui sont soumis à nous, ceux qui sont inférieurs à nous, ne nous respectent pas en s'appuyant sur le fait que nous-mêmes, nous n'avons pas obéi à l'ordre d'une autorité alors que cet ordre était contraire à la Bible?
Ils sont dans la désobéissance en ne nous obéissant pas, parce que l'armée, c'est clair. C'est ce que nous citions tout à l'heure, dont nous parlions. Personne ne peut prétexter de l'imperfection de quelqu'un d'autre pour ne pas obéir. Non. Si c'est dans les prérogatives, donc la personne qui fait le planning pour le ménage dans l'entreprise, si tu as planifié dans tel endroit, tu dois obéir. C'est pas parce qu'elle-même n'a pas obéi à son chef que toi, tu n'as pas obéi. On n'obéit pas en fonction de la perfection des autorités. On obéit en fonction de leur attribution. Voilà. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, beaucoup mélangent les choses. Et puisque la maman n'est pas parfaite, le papa n'est pas parfait, eh bien, on décide de ne pas obéir. Puisque notre responsable d'équipe n'est pas parfait, on décide de ne pas lui obéir. Non, on obéit en fonction des attributions des personnes et non pas en fonction de leur perfection. Donc ça, c'est une erreur que ces gens-là font.
Et c'est que la personne, la bien-aimée, donc demande comment elle peut réagir face aux gens qui ne la respectent pas en tant que
supérieur. Il y a des procédures. Il y a des procédures. Dans chaque organisation, il y a des procédures par rapport aux gens qui n'obéissent pas. Donc on applique ces procédures-là.
Verset 14. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil.
Ouais, nous avons déjà... sous le soleil. Voilà, nous avons déjà parlé du verset 14 à peu près. Hein. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive des problèmes et des méchants qui semblent sans problème. Nous sommes dans le semble. Parce qu'en réalité, d'autres versets disent « Non, c'est faux, ça finira mal pour les méchants et ça finira bien pour le juste. » Mais en apparence, nous pouvons croire, quand nous voyons quelqu'un à la télé, nous pouvons croire tout ce que nous voulons. Nous-mêmes, nous sommes l'exemple. Il y a des moments où j'étais très très malade, mais quelqu'un qui me voit à la télé n'allait pas le savoir. Quelqu'un qui me voit marcher pour aller à un mariage habillé en costume de fête n'allait pas savoir que cette personne est dans une forte douleur. Je rigolais même moi-même, je disais, ah, quelqu'un va me voir en route, il va dire, mais ce monsieur-là, il est bien, il est grand, il fait... Il tape à côté, voilà. En apparence, certains méchants semblent avoir le sort des justes. C'est parce que dans notre logique, le juste devrait être toujours en bonne santé, bien, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que disent les Écritures. Les Écritures nous disent que les justes bénéficient de la grâce de Dieu, de sa protection et de son plan. Mais le plan de Dieu peut être un plan qui semble un échec pour l'être humain. Quand Jésus se retrouve à la croix, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Il est abandonné par Dieu. Voilà, l'être humain peut considérer le plan de Dieu comme un échec. C'est pourquoi, en apparence, les méchants à qui Dieu, envers qui Dieu est patient, peuvent donner l'impression qu'ils s'en sortent dans leur méchanceté. Ils sont mieux que les justes, c'est faux. En réalité, et j'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le jour qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail. Nous avons déjà parlé de ça dans les autres passages. C'est que finalement, ce que l'homme a de sûr, c'est le présent. Donc, parce que l'avenir est incertain. En réalité, c'est une exhortation à nous réjouir. Si aujourd'hui Dieu te donne un bon repas, réjouis-toi de cela. Il te donne un bon moment de prière, réjouis-toi de cela. Mais ne cherche pas à maîtriser la suite. Mais... La vraie part qu'on a, c'est celle-là, un présent qui se manifeste favorablement à nous, c'est notre part. Il faut en profiter, en jouir, et bénir Dieu. Quoi. Voilà, nous continuons.
Verset 16. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver.
Il ne peut pas trouver. C'est le thème de ce livre. L'homme ne peut rien maîtriser. Il ne peut pas. Il a même le sage. Parce que Dieu qui a fait les choses est infini. Il est infini. Et les choses qu'il a créées sont infinies. On ne finira jamais de sculpter les atomes, de voir à l'intérieur, d'examiner les feuilles des arbres, d'examiner les molécules. Ça ne finira jamais. Ça fait des milliers d'années que les gens cherchent à percer les mystères de l'atome, mais ils n'y sont jamais arrivés. C'est infini. Les réalités terrestres, c'est infini. Tu sembles comprendre quelque chose aujourd'hui, le lendemain, ça change. Personne ne peut maîtriser les choses que nous observons. Personne. Nous passons au chapitre 9.
Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du méchant, du pécheur, pardon, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
Oui, on peut s'arrêter au verset 3. Voilà, il explique là, Salomon, finalement, la mort réunit tout le monde. Que tu sois sage, intelligent, tu meurs comme le moustique, tu meurs comme le serpent, tu meurs comme le voleur. Voilà, la mort réunit tout le monde et ça peut donner une impression d'injustice. Mais lorsque nous connaissons toute la parole, nous savons que il y a une résurrection des justes. Les justes ressusciteront et iront au paradis. C'est vrai que nous mourrons tous, mais la suite n'est pas la même pour tous. Les mauvais seront jugés et iront brûler en enfer, éternellement. La suite n'est pas la même, mais sur terre, là nous sommes, c'est pourquoi nous avons donné le titre « Les réalités spirituelles et les réalités terrestres ». Donc les réalités terrestres donnent l'impression d'une sorte d'égalité face à la mort. Oui, nous mourrons tous, oui, il y a comme une égalité, mais la suite n'est pas la même. La réalité spirituelle derrière ça, c'est que après la mort, le juste va au paradis et après la mort, le méchant va d'abord dans le séjour des morts, dans la souffrance, pour aller brûler éternellement dans la seconde mort. Donc c'est pas pareil, mais ça peut donner des excuses aux uns et aux autres pour vivre une vie de débauche, une vie impure. Comme quelqu'un m'a posé la question, puisque comme j'expliquais que j'étais parti évangéliser quelque part dans une maison, et j'ai expliqué que, bon, puisque la personne était hospitalisée la deuxième fois, et j'ai donné le passage de deux rois, l'histoire de Naaman, qui, à cause de sa maladie, la lèpre a été conduite à aller chercher la guérison en Israël, et là-bas, en obtenant la guérison, il a connu en même temps le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, car c'est le seul Dieu. Donc, grâce à ces problèmes, à cause de ces problèmes, il a connu la vérité. Et j'expliquais à la personne que oui, certainement que tout ce qui vous arrive, c'est un appel de Dieu. Maintenant, pour me contourner, la personne dit, mais oui, mais il y a des gens qui connaissent déjà Dieu, mais des choses qui me sont arrivées, leur sont arrivées aussi. Moi, je dis, effectivement, mais eux, ils connaissent déjà Dieu. Il y a un autre objectif. Déjà, ils sont dans le train qui amène au ciel. Même si la même chose qui leur est arrivée, qui t'est arrivée, leur est arrivée, mais eux, ils ont déjà atteint l'objectif de tout, c'est rencontrer Dieu. Donc, dans ce qui leur arrive, ils sont dans la main de Dieu. Mais toi, tu n'étais pas dans la main de Dieu. Ça pouvait aller très loin. Donc, vous voyez, donc, les gens, donc, en quelque sorte, il a voulu me dire, mais ça ne sert à rien puisque même quand on est dans Dieu, on peut souffrir. Mais j'ai dit non, ça sert puisqu'on a déjà Dieu. Notre vie est sécurisée, il y a un avenir, il y a un plan de Dieu pour nous qui s'accomplit. Alors que quand on est en dehors de Dieu, ce plan-là ne s'accomplit pas. C'est ça le problème. Donc, disons-leur, oui. Il peut nous arriver de tomber malade, mais c'est pour d'autres objectifs. Mais nous avons déjà le plus important. Nous sommes dans la voiture de Dieu, nous sommes dans son avion, nous sommes sous contrôle. Dieu, le plan de Dieu est en notre faveur. Et un jour, nous irons au paradis, c'est ce que je lui dis, un jour nous irons au paradis en totale félicité. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de maladie. C'est cela. Et les gens peuvent, voilà, dire, ben, écoute, nous tous nous mourrons et nous, dans ce cas, il n'y a pas de différence. Du coup, je me lâche dans mes péchés, mais attention, attention. Il y a un jugement et puis il y a une suite après la mort. Et notre bien-aimé dit aussi que oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et sont dans la main de Dieu et l'amour aussi bien que la haine. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu et l'amour aussi bien que la haine. Qu'est-ce qu'il a compris finalement que c'est Dieu qui contrôlait tout. Lui, il a voulu tout comprendre. Mais la vraie compréhension, c'est quoi? C'est que Dieu maîtrise tout. Le fameux Job 12, 16. Il maîtrise celui qui s'égare et qui égare les autres. Dieu, lui, il comprend tout. Il connaît tout. Donc si moi, je veux être à l'aise, que je sois en Dieu, et lui me transmettra ce que j'ai à comprendre, et je serai bien. Mais que de moi-même, je cherche à maîtriser, à comprendre, c'est vanité de vanité, c'est poursuite du vent. Voilà, donc Dieu maîtrise tout, les colères, les haines, il maîtrise tout ça. Donc, cherchons la face de Dieu pour comprendre les situations, ne cherchons pas à comprendre par nous-mêmes. Lui comprend tout, alors allons auprès de lui. Et voilà, mais dans tous les cas, ça nous apprend aussi qu'en tant que juste, nous ne devons pas tomber dans les revendications du genre « Mais moi, je suis juste, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi cela m'arrive ?» Salomon constate que cela arrive. Donc, juste statistiquement, calmons-nous, puisque cela arrive. Donc, cherchons l'explication ailleurs. Au lieu de créer des problèmes, voyons bien que ça arrive à plein de justes, il n'y a pas que nous. Statistiquement, cela étant ainsi, nous devons nous calmer, nous dire, tiens, il y a une autre logique dans cette affaire-là, au lieu de nous plaindre. Nous continuons maintenant le verset 4.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Voilà une vérité que nous répétons à plusieurs reprises aux catholiques et à d'autres bouddhistes, hindouistes, qui pensent qu'il y a la réincarnation. Non, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Les vivants, c'est quand tu es en vie, c'est ça qu'il faut bien gérer. Parce que après la mort, c'est fini. Donc, il dit même qu'un chien vivant est plus fort, vaut mieux qu'un lion mort. C'est pour dire à quel point la mort nous sépare de la réalité. C'est très fort. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. C'est fini. Ils ne peuvent plus intervenir sur les choses des vivants. Et les gens qui se disent se mettre en contact avec les morts, en réalité, sont en contact avec des démons qui simulent la voix et la vie des gens qu'eux, ils ont connus et qui sont morts. C'est des démons. Ces morts n'ont plus rien à voir. C'est ce que nous sommes en train de lire. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Voilà. Il n'y a pour eux plus de salaire. C'est fini, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc toutes ces histoires-là d'apparition d'un parent, voilà, en général c'est des démons. Je dis en général parce que je ne maîtrise pas la chose, mais en général c'est des démons. Sauf exception, ça viendra de Dieu, il confirmera. Mais en général nous devons être très prudents par rapport à ça et ne pas considérer ces choses-là. Satan peut nous séduire ainsi. Voilà, nous continuons. Verset 7.
Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais.
Voilà, donc quand Dieu t'accorde des biens pour te réjouir, réjouis-toi. C'est le cadeau de Dieu. Voilà, réjouis-toi. Nous connaissons des gens à qui Dieu accorde, mais ils ne veulent pas se réjouir. Parce qu'ils sont dans l'esprit de planification exagérée. Ils veulent maîtriser l'avenir, ils veulent calculer. Et ils sont aussi dans la logique, ils ne connaissent pas la logique d'amour de Dieu. Voilà, vous savez, la logique de bénédiction. Souvenons-nous, quand le Seigneur a multiplié les pains, c'était, y a eu des restes. Voilà, Dieu est aussi quelqu'un d'abondant dans sa manifestation. Regardez le nombre de fleurs qu'il y a sur la terre, nous ne les connaissons pas toutes. Le nombre de plantes, le nombre d'animaux, nous ne les connaissons pas du tout, surtout les animaux marins. Nous n'en connaissons peut-être que 20% seulement. Vous voyez, donc Dieu, il est abondant dans sa manifestation. Et parfois, certains chrétiens gardent le côté légaliste, rigoureux, dont on ne sait pas d'où ils tirent ça. Parce que en réalité, ils tirent ça de la religion, parce que les textes bibliques ne montrent pas ça. Que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, ils ont été toujours bénis dans la surabondance. Que ce soit David, que ce soit Salomon, voilà. C'est un héritage du catholicisme. Vous voyez, le prêtre, il met pendant un mois ou bien une semaine, bon, soyons gentils, pendant une semaine, la chemise de même couleur. On se dit, ah, vraiment, il est simple, pauvre. En réalité, il en a plusieurs, quoi. Voilà. Donc, ils ont voulu communiquer aux gens une forme de piété qui s'obtient par le fait de souffrir. Non, c'est le fait de jouer aux ascètes, quoi. Des gens qui se privent. C'est comme ça qu'ils se rapprochent de Dieu. C'est faux. Dieu, c'est quelqu'un aussi qui est dans l'abondance. Lorsqu'il te donne les choses, mange bien. Voilà, fais les choses bien. S'il te donne les moyens, ben, et une belle maison, puisqu'il t'en a donné les moyens. Donc, fais ce que Dieu veut quand il te fait ces cadeaux-là. Utilise les cadeaux de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous continuons. Oui.
Oui, donc, il y a quelques questions encore qui sont arrivées. Dans ce dernier verset, il est dit « Bois gaiement ton vin ». Est-ce cela veut dire que le vin n'est pas interdit pour un chrétien ?
On vient de lire, c'est pas moi. Hein. Parce que là, maintenant, on me pose la question à moi. Mais c'est écrit, là. Donc, poser la question à Dieu, voilà. Non. Mais Jésus a pris du vin. Donc, est-ce qu'on doit discuter sur ça ? Mais nous devons dire qu'il y a plein de versets qui avertissent du danger de l'alcool. Mais dire que c'est interdit, bien aimé, est-ce que c'est moi qui nous venons de lire? Et notre Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu, il a dit, moi je prends du vin, je mange, vous dites que je suis un ivrogne. Jean-Baptiste, ne mangez pas, ne buvez pas, vous dites qu'il a un démon. Vous voulez quoi finalement? Nous dirons, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a des mises en garde sur le vin. Voilà, donc c'est équilibré.
Au verset 7, par rapport au verset 7, ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas épargner et vivre le jour.
Non, c'est pas dit ça, c'est pas dit. Ça veut dire tout simplement qu'il doit vivre en fonction des moyens que Dieu lui donne. Tu arrives quelque part, on te donne des choses que tu peux finir. Par exemple, tu peux finir ce poisson-là, tu peux le manger et finir. Mais tu calcules demain, bien-aimé, préparez-moi un petit perroir. Mais non, fini, demain, Dieu va... Voilà. Il y a donc des gens qui calculent, qui ne font que calculer. Ils arrivent là face à un beau manteau. Il n'a pas de manteau, il a un bon manteau. Il va calculer, ben, si j'achète ça, bon, dans 3 mois, il ne va plus faire froid. Est-ce que, oh mon ami, Dieu te donne le manteau. Tu commences à calculer, mais dans 2 mois, il fera plus froid. Bon, je vais supporter. Et après, quand il n'y a plus les choses qui arrivent, oui, mais nous, les chrétiens, parfois, c'est toi-même qui t'écris les difficultés. Donc, nous devons utiliser ce que Dieu nous donne. Maintenant, si nous n'avons pas eu d'ouverture pour dépenser certaines sommes, ça reste naturellement en épargne. Mais faire une épargne forcée, moi, je suis contre cela, parce que il est écrit à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, naturellement, on ne nous demande pas de vider le compte, aller de commencer à... Non, on nous demande d'utiliser ce que Dieu nous donne. Maintenant, si après avoir utilisé ce que Dieu nous donne, même le Seigneur l'a dit, ramasser les miettes, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc, on ne nous demande pas de gaspiller, d'utiliser en fonction de ce que, dont on a envie, ce dont on a besoin. Maintenant, s'il en reste quand même, c'est une épargne naturelle.
Par rapport à ceux qui se mettent en contact avec les morts, dans la Bible, c'est l'esprit de Samuel ou Élie qui avait été invoqué et répondu, ou c'était un démon?
Je ne sais pas. Donc, il y a les deux possibilités. Nous continuons.
Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête.
Tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça veut dire que nous devons être prêts à tout moment à être enlevés. Quoi. Bon, là, nous sautons, nous allons dans le Nouveau Testament. L'enlèvement, c'est-à-dire le retour de Jésus dans les airs pour récupérer ses enfants, ça peut venir à tout moment. Nous ne devons pas retarder la confession, retarder la réconciliation. Nous devons tout faire pour que nos vêtements soient toujours blancs. À tout moment, en utilisant les moyens que le Seigneur nous donne, notamment la repentance, la confession. Alors, il faut que nos vêtements soient toujours blancs et que nous ayons toujours de l'huile. Hein. La parabole des vierges folles, c'est l'enlèvement, et des vierges sages. Il faut qu'il y ait toujours de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est toujours vivre pour Dieu à 100%. Voilà. Ne pas retarder en disant là... je mets une pause aux choses de Dieu. Non, on doit toujours vivre à 100% avec Dieu. S'il doit y avoir repos physique, c'est lui qui va nous reposer. Nous ne devons pas nous planifier ces choses-là.
Verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil.
Voilà, c'est la même chose qu'on a dit sur la nourriture, sur les vêtements. Quand Dieu nous fait grâce de quelque chose, il te fait grâce d'une femme, d'un mari. Mais vis bien, quoi. Saisis l'occasion parce que un jour l'un d'entre vous va mourir. Un jour il peut y avoir un événement. Donc vis pleinement avec ce que Dieu te donne au lieu de compliquer la situation. Ben, elle me fait pas ceci, il me fait pas cela. Ça devient une vie de concurrence, une vie de problème. Alors qu'on t'a donné un cadeau. Alors que quand tu n'étais pas marié, tu ne faisais que chercher à te marier. Mais maintenant que tu es marié, ça commence à créer des problèmes pour tout et pour rien. Bien aimé, Dieu jugera vraiment tranquillement les gens, quoi. Mais tu cherchais ça. Maintenant que tu as ça, tu commences à créer des problèmes pour tout et pour rien. Nous connaissons beaucoup de gens qui créent des problèmes pour tout et pour rien, alors que maintenant, ils ont ce qu'ils voulaient. C'est ça. Donc, quand Dieu nous donne des choses, réjouissons-nous dans ces choses-là pleinement, notamment aussi le mariage.
Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas.
Voilà, nous revenons toujours sur le temps présent. Chante pour Dieu si tu as envie de chanter. Évangélise, saisis le présent. Il n'y a que ça que nous avons, nous les humains. Parce que l'avenir, nous ne connaissons pas. Donc quand un présent se présente à nous, allez, lâchons-nous, faisons ce présent-là parce que c'est le cadeau de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire maintenant, fais-le. Tu as envie d'écrire... de passages bibliques pour les retenir. Fais-le. Fais les choses. Tant que il y a l'élan ne sera pas toujours là. Quand il y a l'élan pour quelque chose, tu as envie de cuisiner pour inviter des frères et sœurs à manger, fais-le. Quand tu commences à calculer, ah mais il va manquer telle chose, c'est fini. Donc beaucoup de projets sont annulés comme ça parce que les gens se compliquent alors que c'est en ce moment-là qu'ils ont l'élan. C'est un appel à respecter l'élan. L'élan ne sera pas toujours là. Le présent ne sera pas toujours là. Quand il vient, accomplissons les choses.
J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux.
Voilà, donc le verset 12 nous montre ce que nous avons toujours dit, que l'homme ne maîtrise pas sa vie et la mort peut survenir d'un instant à l'autre. Toutefois, nous devons quand même souligner que les enfants de Dieu, Dieu les prévient d'une manière ou d'une autre parce qu'il a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. La mort ne nous surprendra pas. Voilà, ça sera quelque chose que nous avons plus ou moins vu déjà. Maintenant, après, quand on a plus ou moins vu, on peut avoir des hésitations. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Mais Dieu prévient toujours ses enfants. Mais par contre, pour tout le reste, ça vient comme un poisson quand il se fait attraper dans un filet. Ben, c'est imprévisible pour eux. Et donc, quand on n'a pas encore Dieu, c'est dangereux. On est en danger, en fait, quoi. Quelqu'un sans Dieu est en danger. Parce que si la mort arrive, c'est fini. Et pour clôturer, nous disons verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. » Ce n'est pas toujours les plus rapides qui gagnent. La course n'est point aux agiles. Ce n'est pas toujours les plus intelligents qui reçoivent des grands postes. Sarkozy a dit, « Tous les gens qui m'entourent dans le travail, dans l'administration, la majorité, ont fait plus d'études que moi et ont brillé plus que moi si on est au même niveau. Mais c'est moi qui suis le président. Enfin, il a dit, hein, mais c'est moi qui suis le président. C'est ce qui est écrit là. La course n'est point aux agiles. C'est pas forcément les plus rapides qui gagnent. Nous connaissons un joueur qui, en 1974, l'équipe que tout le monde pensait qu'il allait gagner la Coupe du Monde, c'est la Hollande. Mais il y a eu des trucs mafieux qui ont été faits. Ils ont fait courir des bruits comme quoi ils sont sortis avec des prostituées. Et les femmes des joueurs les ont appelés pour se fâcher, notamment le joueur principal, Johan Cruyff. Sa femme l'a appelé de la Hollande pour se fâcher. Et du coup, il était déstabilisé. Ils n'ont pas pu jouer comme il fallait à la finale. Ils ont perdu la finale. Donc, c'est ce qui est écrit là au dernier, quand on dit « Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » C'est le temps et les circonstances qui déterminent tout. Ce n'est pas ta qualité de course. Ce n'est pas ton intelligence. C'est les circonstances ont fait que c'est Sarkozy qui soit président. C'est pas, lui-même le dit, ce n'est pas les diplômes ni les résultats scolaires. Il dit en matière de résultats scolaires, tous ceux qui m'entourent en ont eu mieux que moi et en grand diplôme encore. Donc ceux avec qui je suis au même niveau, ben ils m'ont dépassé en matière de résultats. Mais c'est moi qui suis le président. C'est le temps et les circonstances qui déterminent les choses. Donc finalement, Dieu, nous connaissons des gens qui avaient un frère plus fort que dans leur domaine. Mais la vie a fait que finalement c'est lui qui est devenu le meilleur joueur, mais son frère est devenu bûcheron. Pourtant, quand ils avaient 15 ans, 14 ans, c'est son frère qui était le plus fort au football. Mais l'avenir a fait que le frère devienne bûcheron et c'est lui qui reçoit le ballon d'or. C'est ça, le temps et les circonstances déterminent tout. C'est pas parce que tu es le plus intelligent que c'est toi qui seras le président. C'est pas parce que c'est toi qui sais bien parler que Dieu te prendra pour prédicateur. C'est pas parce que c'est toi qui es sage à qui Dieu donnera les plus grands moyens financiers. Non. C'est les temps et les circonstances. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide sur ces choses-là. Donc soyons simples. Ne soyons pas, ne nous comparons pas. Voilà, laissons Dieu conduire les choses et respectons cela. Il dit, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bref, respectons Dieu qui détermine les choses. Acceptons. Si c'est ton petit frère de 10 ans de quart qui est devenu le riche de la famille, accepte ça. C'est le temps et les circonstances. C'est comme ça. Si le vaurien du quartier, à cause d'un circuit de musique mondaine, est devenu le plus riche de votre quartier, des gens d'origine de votre quartier, accepte ça. Ne commence pas à aller à gauche, à droite, dire c'est nous qui l'aidions quand il était petit, c'est nous qui... Non. Les temps et les circonstances l'ont mis là. Accepte ça. Toi, fais ce que les temps et les circonstances ont mis pour toi, c'est-à-dire ce que Dieu a mis pour toi. Il y aura la gloire dans ce que tu fais. C'est très important que Dieu nous aide au nom de Jésus. Oui.
Un chrétien peut-il être avocat, sachant que les clients peuvent parfois être coupables?
Oui, il peut l'être. Maintenant, ça va être difficile pour lui. Voilà. Et l'avocat, je ne pense pas qu'il est tenu d'accepter tous les clients. Je ne crois pas. Il peut refuser. Hein, voilà. Il peut refuser, mais le client peut mentir aussi. Donc, ben, bref, et que lui sente que s'il ment, bon, ce n'est pas facile d'être un avocat chrétien, mais c'est possible. Voilà, parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit que ce n'est pas possible. Voilà. Ok, nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir aidés à faire ce travail d'étude biblique, à recevoir ton message de sagesse très élevé qui, en définitive, nous apprend l'humilité. Nous comprenons que les choses sont maîtrisées par toi et que nous devons chercher ta face, être dans ta main, être sur ton sillage pour réussir tout et être protégé. Que nous devons nous contenter de la place que tu nous donnes dans ce monde. Et agir pleinement dans cette place pour manifester ta gloire qui est magnifique pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous aider à pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.